L'invité du grand entretien ce matin sur France Inter est le peintre, graveur et sculpteur français Gérard Garouste. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'un des artistes français les plus importants dans vos peintures. Vous êtes ce personnage tordu, hurlant, inquiétant, en tout cas intranquille, ça certainement. Mais si France Inter vous a invité ce matin, c'est pour parler d'un engagement que vous portez et dont il nous a semblé qu'il était trop souvent oublié. Cet engagement, c'est une association, La Source, c'est son nom, que vous avez fondé il y a exactement 30 ans cette année. 30 ans à aider des enfants, à aider des familles en situation de grande fragilité, grâce à l'art, grâce à la culture. Et vous êtes persuadé, Gérard Garouste, on va en parler, que l'art est une nécessité pour parvenir à s'épanouir et à se construire. Expliquez-nous très concrètement pour commencer, qu'est-ce que l'art, depuis 30 ans, a apporté à tous ces enfants qui sont passés par votre association? En quoi le dessin, le théâtre, la sculpture les ont transformés?
D'abord, c'est une expérience personnelle. Moi, quand j'étais gamin, j'étais dans un échec. J'avais beaucoup de difficultés. Je travaillais très mal à l'école. Et la seule chose qui me protégeait, qui me donnait une identité, c'était de dessiner. C'était comme ça que je dessinais. Je séduisais ma maîtresse, mes petits camarades, la fête des mères, etc. Et le dessin, c'est... Et les mains, finalement, j'avais plus confiance dans mes mains que dans ma tête. Et donc, quand je me suis retrouvé en Normandie, dans des régions où un jour le maire du village est venu me chercher en me disant, écoutez, vous savez, dans le village il y a une famille qui est dans un état incroyable, et j'ai revu ce genre de famille que j'avais connu dans mon enfance, qui sont des petits des enfants issus d'un milieu très très dur. Donc je me suis dit que là, maintenant que j'étais adulte, il était temps d'intervenir. Et puisque je suis peintre, ben peut-être qu'avec ce que je suis, je retrouve un petit peu une ouverture, une possibilité comme que j'avais quand j'ai été gamin. Et vous savez, l'art, pour moi, un artiste, c'est un enfant qui a oublié de grandir. Hein. Il y a quelque chose d'évident, et c'est pour ça que ça marche très bien entre un artiste et un enfant.
Mmh. Alors comment ça se passe, Gérard Garouste, à La Source? Comment ça se passe précisément? Vous organisez, si j'ai bien compris, des toutes petites classes d'élèves que vous sélectionnez comment, tiens d'ailleurs, pour commencer, et que vous initiez à quoi précisément, avec qui et pendant combien de temps? Vraiment, comment ça se passe?
D'abord, déjà très simplement, quand on a réalisé qu'il fallait faire quelque chose, on s'est mis en contact avec les services sociaux, la DAS par exemple, dans notre département, ça a commencé en Normandie, maintenant on a 10 lieux en France un peu partout, mais on a commencé avec la Normandie.
Parce que vous êtes installé vous-même dans l'heure. Hein,
voilà. On est installé dans l'heure, mmh, exactement. Mmh. Et donc, redemandez-moi s'il vous plaît votre question.
Non, c'est comprendre un petit peu, enfin faire comprendre en fait aux auditeurs comment la structure, la source s'organise, c'est-à-dire comment est-ce que vous sélectionnez ces élèves, pourquoi voilà. Vous en prenez si
donc,
peu, qu'est-ce que vous leur faites faire.
Exactement, donc déjà, c'est les organismes sociaux qui nous renvoient des enfants, mmh, et nous, il se passe très simple. On fait des petits ateliers. Vous savez, ce qui est le plus important, c'est d'avoir un vrai contact avec l'enfant. Parler, le faire parler et l'écouter. Parce que à l'école, c'est très important, évidemment, l'école. Mais vous avez le professeur qui parle, les enfants qui écoutent, et l'enseignement fonctionne dans un sens. Il faut déjà que les enfants soient en forme pour être capables d'écouter le professeur. Mais là, quand on s'adresse à des enfants issus d'un milieu difficile, défavorisé, où eux-mêmes ont vécu des choses terribles dans leur famille, mmh, là, il faut absolument créer un dialogue, et ce que les enfants... alors, là, il y a un alibi merveilleux, parce que nous ne sommes pas une fondation d'art contemporain pour faire de ces enfants des artistes. L'art est un moyen de créer un contact avec les enfants, et ça passe par un côté ludique. Mais ce côté ludique de l'art, c'est une manière qui prennent confiance en eux, de développer en eux la liberté, la responsabilité, et vous savez, de donner à un enfant le sens des responsabilités, plus tard, il sera pas passif, il sera actif. Parce qu'on est dans une société, vous remarquerez que dans une société, on se plaint toujours, que fait l'État, que fait ceci, non, il faut, si tu veux qu'il se passe quelque chose dans ta vie, commence à faire quelque chose avec toi-même et prendre des décisions. Voilà l'esprit de la source.
Malgré tout, il y en a quelques-uns parmi ces enfants qui sont passés, qui sont devenus des artistes, à qui vous avez donné la vocation ?
En tous les cas, oui, il y en a quelques-uns. En tous les cas, il y en a quelques-uns qui sont dans le milieu de l'art, dans le milieu du cinéma. Pour vous donner un exemple, évidemment que dans les premiers ateliers, je participais en tant qu'artiste.
Intervenant,
oui. Mm-hmm. Donc, j'avais un groupe d'enfants et il y avait une petite fille qui était très, 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 très refermée sur elle-même, etc. Et quand j'ai connu ses parents, j'ai compris pourquoi elle pouvait être si en difficulté avec elle-même. Eh bien, on a eu la chance de l'avoir très longtemps, cette gamine, dans tous les ans. Donc, il y avait on travaillait sur des maquettes de théâtre, etc. Eh bien, cet enfant, petit à petit, a eu confiance dans l'esprit de la source. Et elle a fini par faire architecture d'intérieur. Et pour son diplôme, elle a créé une source idéale, et donc une architecture idéale, et maintenant elle est architecte de l'intérieur. Voilà par exemple, mais il y a d'autres exemples comme ça, je pourrais vous donner d'autres exemples bien sûr.
Alors ne vous mettez pas si près du micro, parce que du coup ça crapote un peu. La source aujourd'hui, votre association, au bout de 30 ans, existe dans 10 départements, vous avez créé 10 structures, on en trouve une dans le Maine-et-Loire par exemple, dans les Pyrénées-Atlantiques, en Ille-et-Vilaine, en Ardèche également. Pourquoi avoir fait le choix de la ruralité comme ça ? Pourquoi ce sont dans les territoires ruraux qu'il vous a semblé urgent ou en tout cas nécessaire d'aller ?
Écoutez, c'est un petit peu comme ça. Dans mon enfance, j'étais en Bourgogne. J'étais avec des enfants dans le petit village de Bourgogne où il y avait 80 habitants. Dans la petite classe où j'étais, il y avait plus d'enfants à l'époque, on disait l'assistance publique, que des enfants de famille. Aujourd'hui, je me suis retrouvé en Normandie et je retrouve les mêmes problèmes avec des enfants qui ont exactement les mêmes difficultés. C'est-à-dire qu'en province, l'isolement est encore pire, parce que ne serait-ce que par l'espace. Mais vous savez,
en province, il y a des grandes villes aussi, vous savez, Gérard Garouste.
Oui, mais on travaille avec Rouen, on travaille avec Lyon, on travaille avec Meudon, et puis maintenant, on a une source aussi, on a une source à Paris.
Il n'y a pas la volonté de tout concentrer quelque part sur les territoires ruraux.
Nous, notre projet, c'est l'enfant en difficulté ou qui soit, et généralement, la première source, c'est nous qui l'avons vraiment décidé, voulu, etc. Mais vu le succès que nous avons eu, après, ce sont des personnes qui, dans les départements, qui sont venues nous voir en disant, écoutez, nous, on est prêts à créer une source avec vous, on a compris comment vous fonctionnez, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 10 sources, et l'idée, c'est de pas aller trop vite non plus. Ce qu'on veut, c'est renforcer ces 10 sources, parce que vous savez, ça fait quand même 12 000 enfants par an, 200 artistes par an, ça fait beaucoup, beaucoup d'activités quand même. C'est donc renforcer un petit peu ces activités-là, et puis encore une fois, vous savez, il faut que ça soit vu sur un très très long terme. Il faut qu'on voit pour protéger un enfant, c'est pas juste une année, il faut qu'on le suive longtemps, c'est notre projet.
Donc ils reviennent régulièrement en fait. Ils sont pas là sur une semaine, ils sont pas là sur un mois, ils sont pas là sur un an. C'est un processus beaucoup plus long que vous proposez.
C'est de les suivre à très long terme, mais on travaille aussi avec l'éducation nationale, parce que l'éducation nationale nous a dit vous faites un très bon travail avec les enfants. Alors pourquoi vous feriez pas des ateliers comme ça avec les enfants ? Nous c'est bien parce que ça nous permet de mélanger les enfants des classes normales qui viennent avec leurs professeurs et de mélanger ces enfants avec ces enfants issus de la DAS, issus de structures ou d'autres associations. On travaille aussi avec d'autres associations.
Pourquoi l'art, pourquoi la culture permet finalement à ces enfants, et sans doute à des adultes aussi d'ailleurs, mais d'à nouveau croire en soi, d'à nouveau d'avoir des grandes idées, d'oser les exprimer? Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi il y a un déclencheur?
L'art, vous savez, il faut que dans la nature humaine, que ça soit un enfant ou un adulte, mais surtout un enfant, il faut surtout garder une place à l'utopie, au rêve. Le rêve et l'art, c'est la même chose. Et le rêve est, on peut accéder au rêve. Vous savez, regardez un enfant qui va mal. En fait, curieusement, il ne désire rien. Moi, ce qui m'a sidéré dans les enfants de ces ateliers, c'est que ils sont passifs. Il y a que les enfants gâtés qui, quand ils ont un beau train électrique, ils veulent un train encore plus beau, etc. Et donc, l'idée, nous, chez un enfant, c'est de recréer du désir. C'est de dire, attends, c'est pas ça le monde. Le monde, c'est pas le chômage, c'est pas le monde, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que c'est lui montrer, et ça c'est un projet artistique. D'ailleurs, quand on dit de l'art, on a commencé avec les arts plastiques parce que c'est mon domaine, mais
il y a aussi du théâtre, il y a aussi de la sculpture, il y a plein de choses.
Il y a la photographie, il y a la danse, on travaille avec le cirque d'Elbeuf,
Vous faites profiter de toutes vos relations artistiques, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on peut présenter les choses
bien
comme ça?
Bien sûr, parce que tous les artistes, il y a toujours un parrainage d'artistes connus. On a vu des artistes même qui sont assez loin de moi en tant qu'artiste, comme Buren. On a eu à l'époque César. L'idée, c'était de prendre des artistes reconnus en France pour que faire venir des jeunes artistes. Et aujourd'hui, on a des artistes en résidence qui sont des jeunes artistes et qui, profitant de cette résidence, parce qu'un jeune artiste n'a pas obligatoirement les moyens d'avoir un atelier. Alors, ils ont un atelier,
ils ont les enfants, mais ils peuvent aussi travailler à leur propre projet, si je comprends bien.
Exactement.
Alors, on reçoit plein de jolis messages. Je vous en lis quelques-uns. Bravo, monsieur Garouste, pour tout ce que vous faites. J'encourage les auditeurs à aller voir le compte Instagram de La Source, où il y a des témoignages absolument merveilleux. Ça, c'est Isabelle qui nous envoie ce message. Et puis, je vous transmets également celui de Mélissa, qui dit: le contact avec les enfants nourrit-il votre peinture? Qu'est-ce que ce contact avec eux vous apporte en tant qu'artiste?
Ah ben, vous savez, moi, j'avais ma vie d'artiste, mon métier d'artiste, mais encore une fois, quand je me suis installé en Normandie, on est venu me chercher pour me dire: vous pouvez pas laisser une famille comme ça. Il y a à côté de chez vous, là, dans une gare désaffectée, il y a une famille qui va très mal. Il faut faire quelque chose. C'était en hiver, il y avait même pas de carreaux aux fenêtres.
Et qu'est-ce que vous avez fait?
Et donc, on a déjà, avec quelques personnes du village, on a colmaté les fenêtres. Et moi, ma réaction, c'est de dire: mais attendez, on est en France, il y a des systèmes, il y a un
sociaux.
Éducateur qui doit s'occuper de ça. Et on me dit: bah oui, si vous voulez, on va vous le présenter. Et donc, avec cette, on m'a présenté cet éducateur, et c'est là où on a décidé de réaliser qu'il fallait faire quelque chose d'important et de travailler avec cet éducateur.
Alors, La Source, ces 10 structures, vous souhaitez probablement en ouvrir encore d'autres. Est-ce que vous avez d'autres idées? Est-ce qu'il y a d'autres départements qui vous intéressent, où vous allez aller?
Bah, écoutez, évidemment que tout m'intéresse. Ce qui m'intéresse,
mais vous avez des projets à court terme là déjà, ou pas?
À court terme, alors déjà, il y a les deux événements à court terme, c'est des événements autour des 30 ans de La Source pour qu'elle soit bien reconnue. Donc il y a le 22 septembre, il y a cette manifestation sur la place du Trocadéro.
On va en parler.
Avec Madame Roselyne Bachelot qui doit inaugurer.
La ministre de la Culture,
qui là, c'est un petit peu les 30 ans de La Source, montrer un petit peu avec sur les palissades, on va montrer un peu les activités de La Source. montrer que l'art, encore une fois, l'art, c'est pas un luxe. L'art, c'est
vous dites
une...
c'est pas un loisir et vous dites c'est pas un luxe.
C'est pas un loisir.
C'est pas un loisir.
C'est plus qu'un loisir. C'est une nécessité. C'est on est parce que tout le monde dans une famille normale manger à table, dîner, c'est un rituel qui. Mais dans beaucoup de familles, on ouvre une boîte de conserve devant un poste de télé. Non, l'art, c'est savoir vivre. Et donc, il faut reprendre l'art est plus qu'une nécessité. C'est une manière d'être et de se protéger et se trouver sa propre identité.
Je vous propose Gérard Garouze d'accueillir Anne qui est au standard et qui veut vous poser une question. Bonjour Anne, alors pour l'instant on va parler avec Emmanuel, on en a deux en fait, on me demande de plutôt commencer par Emmanuel, il n'y a aucun souci. Emmanuel, bonjour, vous êtes la bienvenue.
Bonjour, je suis très contente que France Inter nous présente l'immense artiste qui est Garouste. Monsieur Garouste, je voudrais savoir si la source accepte les enfants handicapés et les jeunes aidants qui sont des millions en France et que l'association AJAD accueille déjà.
Merci Emmanuel. Alors est-ce que vous commencez d'ailleurs, première question, est-ce que vous acceptez les enfants handicapés? On n'en a pas parlé, c'est vrai, c'est important.
Il nous est arrivé de travailler avec des associations qui s'occupent d'enfants handicapés. Pourquoi pas, c'est tout à fait possible. Mais c'est pas notre premier regard, c'est les enfants issus d'un milieu défavorisé, qu'ils soient dans les villes ou dans les provinces. Et donc, ce sont des enfants, vous savez, des familles du chômage longue durée, et l'enfant est éteint. On sent que l'enfant a au contraire beaucoup de possibilités, mais il a besoin d'un petit peu d'eau fraîche au-dessus de sa tête pour s'éveiller. Donc c'est ça notre projet.
Et deuxième question, les jeunes aidants familiaux, vous en avez besoin ou pas?
Les
jeunes aidants familiaux, vous?
Les jeunes aidants, qu'est-ce que c'est que ça? Un jeune aidant familiaux, c'est un bénévole, c'est ça?
Je pense, effectivement.
Oui, bénévole, bien sûr qu'on a besoin de bénévoles. On en a déjà, je crois, une centaine. Dans les 10 sources, ça fait...
Les aidants, ce sont ceux qui vont être aux côtés de ces enfants handicapés.
Oui.
Est-ce que vous prenez en fait le groupe, quoi, c'est-à-dire l'enfant handicapé et son aidant?
Si vous parlez d'handicap, on est, comme je vous dis, on a travaillé avec des associations d'handicapés, mais ils viennent avec toute leur structure.
Voilà.
On a même des dortoirs, on peut complètement accueillir, mais c'est pas encore une fois s'ils viennent. Nous, on a des artistes, on a une structure à leur proposer. Mais ils sont complètement dans leur structure.
Et je vous avais promis qu'on entende Anne. Cette fois-ci, on l'a. Bonjour Anne, vous êtes la bienvenue. On vous écoute sur France Inter. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur Garouste. Bonjour France Inter, ma radio préférée.
C'est gentil.
En fait, je rebondis un petit peu sur le bénévolat parce que j'habite Paris. Je suis ancienne élève de l'atelier maître de Penningen et des arts décoratifs à Paris. Et j'ai moi-même enseigné pendant un temps. Et je voulais savoir si effectivement l'association recruter éventuellement des enseignants, des personnes qui pouvaient participer à cette éducation artistique auprès des enfants. Je trouve cette démarche très intéressante.
Merci Anne. Alors est-ce que vous acceptez des artistes bénévoles? Est-ce que vous prenez que des artistes professionnels? Comment ça se passe effectivement? On n'a pas précisé ça encore.
Je propose
que Anne se rapproche de vous.
Anne se rapproche, consulte notre site, La Source, parce que là, elle va déjà avoir beaucoup d'indications et puis des conversations avec nos personnes spécialisées sur nos services sociaux, comme Blandine, par exemple, et de parler un petit peu comment la source fonctionne. Et là, peut-être que Anne verra exactement ce qui peut correspondre à sa démarche. Mais évidemment que nous sommes toujours preneurs d'aventures nouvelles, des rattrapages scolaires, tout est possible. Tout ce qui peut...
Vous aider, vous soutenir, soutenir, participer.
Surtout soutenir les enfants. Ah, c'est le sujet est très large.
Gérard Garouste, cet engagement raconte beaucoup de votre histoire personnelle. Vous l'esquissiez un tout petit peu au début. Vous aussi, donc, vous avez été un élève en difficulté, en échec scolaire, en général, c'est l'expression que vous prenez. Et pour vous aussi, c'est l'art, finalement, qui vous a épanoui, c'est le dessin, quand vous étiez petit.
Oui,
vous a sauvé.
Bien sûr. Mais vous savez, moi j'étais même plus que mauvais à l'école. J'étais dyslexique. J'avais que des mauvaises notes. Pour vous donner une idée qui était assez drôle, c'est que à un moment donné, j'étais dans une classe et le professeur trouvait que dans cette classe, il y avait deux tellement nuls qui méritaient même pas d'être dans la classe. Donc il avait inventé une sous-classe.
Ah oui.
Et donc c'était bien parce que dans cette sous-classe, soit on était deux, soit j'étais premier ou soit dernier. Donc je pouvais toujours dire à mes parents, bah, cette année, ce mois-ci, j'ai été premier. Donc voilà le niveau dans lequel... Mais justement, ce qui sauvait tout, et ça fait toute ma vie, ce qui sauvait tout, c'est que pendant que les petits-enfants faisaient des progrès en dictée, en addition, moi, vous savez, quand la maîtresse disait, bon, aujourd'hui, je vais vous apprendre une chose importante, je vais vous apprendre une division. Moi, à ce moment-là, il y avait une voix off qui me parlait, qui me disait, tu vas rien entendre, tu vas rien écouter, et je n'entendais pas ce que disait. Eh bien, le fait de dessiner, c'était au moins la manière d'exister, et je m'en suis toujours souvenu. Donc, le jour où j'ai vu des personnes, des enfants en difficulté, je me retrouvais un peu dans cette... Je me suis dit, mais il faut que je leur donne des clés. Voilà ce que j'ai fait.
En tout cas, vous en parler dans le livre qui vient de paraître, vraiment peindre. Alors vous parlez essentiellement effectivement de votre peinture, mais vous revenez un petit peu sur vous, ce livre donc vraiment peindre, et il est paru aux éditions du Seuil et c'est un livre d'entretien notamment avec l'historienne de l'art Catherine Grenier. Gérard Garouste, je voudrais savoir aussi, parce qu'il y a quelques questions sur ça qui nous ont été envoyées par nos auditeurs, est-ce que le contexte de crise sanitaire dans lequel on vit depuis maintenant un an et demi, en quoi est-ce qu'il a rendu le travail de votre association encore plus important peut-être et probablement encore plus difficile ?
Plus difficile, en effet, parce que nos équipes voulaient absolument garder un contact avec les enfants, d'une manière ou d'une autre. Donc, il fallait suivre les enfants. D'habitude, on fait il y a un groupe d'enfants qui vient et puis qui sont dans les ateliers, tandis que là, c'était un petit peu les éducateurs de la source qui allaient dans les familles pour continuer à garder le lien. Et puis on attache beaucoup d'importance on fait des sortes de vernissages avec les parents pour valoriser justement les travaux des enfants. Et là, avec ce confinement, il y a des événements qui n'ont pas été possibles. Par exemple, là on est dans même en ce moment il y a les anniversaires de 30 ans de la source. C'est difficile de garder une vraie actualité sur ces événements. Là, on va faire donc cette
grande exposition dont vous avez parlé sur le Trocadéro à Paris. Voilà. Ça sera en septembre. Voilà. Et vous faites aussi, alors ça c'est Mélanie qui pose la question, tous les ans vous faites une vente aux enchères avec des artistes comme par exemple Stark, Castelbajac. Comment est-ce que vous avez fait pour les sensibiliser, tous ces gens-là? Est-ce qu'ils sont venus facilement vous aider?
D'abord, vous savez, on se connaît tous en fait. Les artistes, vous savez, le milieu artistique est un petit milieu. Enfin, je parle des plasticiens, donc on se connaît, et donc que ce soit des stylistes ou des peintres ou même des cinéastes ou des photographes, on se connaît un petit peu tous. Et en effet, l'idée c'est vente aux enchères qu'on prépare là en ce moment pour une vente d'octobre. Où, là aussi, sur notre site, il y aura les dates.
Et ça remplit les caisses de la source en fait.
Ben, c'est très important. On a des suivants par les ministères. Là, on va justement, on attend des conventions avec la culture et l'éducation nationale, mais les ventes aux enchères, c'est très important.
C'est noté. Merci infiniment, Gérard Garouste, d'avoir passé un petit peu de temps sur France Inter avec nous. Je vous souhaite une excellente journée. France Inter.